RFI, 7h, à Paris, 5h en temps universel.
Julien Coquel-Rohem.
Bonjour à toutes et à tous, c'est RFI Matin qui commence avec le journal. Bonjour Léa Boutin-Rivière.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
Un conflit ouvert en Israël entre Benjamin Netanyahou et la procureure générale.
En cause, la nomination d'un nouveau chef du Shin Bet, les renseignements israéliens. Le Premier ministre a donc passé outre l'interdiction la veille de la justice, dont la réaction ne s'est, vous l'entendrez, pas fait attendre. Après le portefeuille, Donald Trump attaque les effectifs dans une nouvelle étape de sa guerre contre Harvard. Il vient d'interdire à l'université d'accueillir des étudiants étrangers. Dans ce journal également, Tidiane Thiam garde la tête du PDCI en Côte d'Ivoire et aux îles Canaries, des dizaines de migrants mobilisés après la mort de l'un d'entre eux.
La communauté internationale, les Palestiniens, une partie de sa population et maintenant la justice, Benjamin Netanyahou s'oppose à tout et tout le monde.
Le Premier ministre israélien gouverne par la confrontation depuis des mois. Sa dernière adversaire en date, la procureure générale, elle lui a interdit de désigner un nouveau chef du Shin Bet, les renseignements. Pourtant, 24 heures plus tard à peine, l'agence avait un nouveau patron, fraîchement désigné par le chef de l'exécutif, David Zinni. Michel Paul, bonjour, vous êtes en ligne de Jérusalem. Cette décision intervient dans un contexte de tension avec la procureure.
Oui Léa, dans un sens on peut dire que le Premier ministre israélien tient la promesse qu'il avait faite la veille en proclamant que son gouvernement allait nommer un remplaçant à Ronen Bar, le patron de la sécurité intérieure évincé. Alors sur le papier, le général David Zinni répond aux qualifications, c'est un militaire expérimenté qui a occupé des postes de premier plan. Quelques mois avant l'attaque du 7 octobre, il a même rédigé un rapport aux allures prophétiques soulignant l'impréparation de l'armée face à une attaque surprise au sein de la division de Gaza. Et un autre détail, David Zinni est père de 11 enfants.
C'est une nomination problématique, Michel, au niveau juridique.
Oui, c'est le moins que l'on puisse dire, un véritable bras de fer institutionnel. La procureure générale a publié une directive interdisant à Benjamin Netanyahou de nommer jusqu'à nouvel ordre un successeur au directeur du Shin Bet en raison d'un conflit d'intérêts. Le service enquête sur le Qatar Gate, l'implication de deux conseillers du Premier ministre dans une campagne financée par le Qatar. La Cour suprême, de son côté, a affirmé que la destitution de Ronen Bar était illégale. Alors bien sûr, la droite et les partisans de la réforme judiciaire se félicitent ce matin. L'opposition, elle, crie au scandale et la procureure générale évoque un processus de nomination vicié. Il va y avoir des recours contre cette nomination. Rappelons qu'il y a tout juste 2 mois, Netanyahou avait nommé un amiral à ce même poste, mais le jour même, il était revenu sur sa décision car il s'était avéré qu'il avait participé à des manifestations contre la réforme judiciaire et écrit un article anti-Trump.
Michel Paul en direct de Jérusalem. Benjamin Netanyahou et son gouvernement qui font aussi la sourde oreille face aux appels incessants de la communauté internationale à mettre fin à son opération chariot de Gédéon dans la bande de Gaza.
Au point que plutôt que de recourir à des arguments juridiques ou diplomatiques, l'OMS en a appelé à la pitié de l'État hébreu.
Le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom, a estimé hier que cela serait une bonne chose pour Israël et plus largement pour l'humanité. Faire de la nourriture une arme, c'est injuste, a-t-il dit, et c'est pire encore concernant le matériel médical. Mais cela non plus n'a pas fait fléchir le gouvernement israélien. Les frappes se sont poursuivies hier dans la bande de Gaza, faisant au moins 52 morts selon la défense civile. Quant à l'aide humanitaire, malgré la fin du blocus, elle reste largement insuffisante. Il faudrait plus de 10 000 tonnes de farine pour subvenir aux besoins de la population.
Et la situation reste très inquiétante également en Cisjordanie occupée.
Il y a eu l'épisode avant-hier de tirs à balles réelles contre des diplomates venus visiter le camp de Jenin. Il y a maintenant cette alerte lancée par l'Association pour les droits civiques en Israël, l'une des plus grandes ONG de défense des droits de l'homme du pays. L'armée israélienne aurait, dit-elle, retiré des caméras de vidéosurveillance de villages palestiniens, avec ce que cela implique de risque pour la sécurité des habitants à Mira Sulem.
C'était leur façon de se protéger des attaques de colons. Plusieurs villages palestiniens ont fait le choix d'installer des caméras de vidéosurveillance. Parfois, des ONG leur ont offert de quoi s'équiper. Ruth Shaer est avocate auprès de l'Association pour les droits civiques en Israël. Elle dénonce des assauts contre ce matériel.
Ces derniers mois, il y a eu des cas de colons, de soldats ou même de policiers qui sont allés dans des villages ou des localités équipées de caméras. Ils les ont prises avec les images qu'elles contenaient. Parfois, ils les ont cassées.
L'absence de caméras rend désormais les villageois palestiniens plus vulnérables, selon Rocher.
Les colons vont avoir une impression de liberté. Ils vont avoir l'impression qu'ils peuvent commettre des violences, faire ce qu'ils veulent désormais, parce que les Palestiniens n'auront aucune preuve de ce qui leur est arrivé. Ça sera parole contre parole. Et dans ce cas, la parole d'un colon juif israélien semble avoir plus de valeur.
Contactée, l'armée israélienne n'était pas en mesure d'apporter des éclaircissements sur ces incidents. Amira Suilem, Ramallah, RFI.
Et l'attitude israélienne a braqué en tout cas une partie de la communauté internationale qui n'hésite plus à accentuer la pression. Et ce climat s'est encore aggravé hier lorsque le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sar, a accusé certains dirigeants, particulièrement en Europe, d'inciter à la haine, ce qui a selon lui un lien direct avec l'assassinat hier de deux employés de l'ambassade israélienne à Washington, immédiatement qualifié d'acte antisémite par Donald Trump. Antisémitisme et incitation à la haine, c'est aussi comme cela que le président américain justifie sa croisade contre la prestigieuse université de Harvard, avec une nouvelle étape de franchie hier, Guillaume Nodin, l'interdiction pour l'établissement de recruter des étudiants étrangers.
Harvard permet à des étrangers anti-américains et pro-terroristes de harceler et d'agresser physiquement des individus et d'entraver son environnement d'apprentissage autrefois vénérable. C'est ce que reproche la secrétaire à la sécurité intérieure Christine Ohm à l'université. Elle l'accuse aussi de travailler avec le parti communiste chinois. Depuis des semaines, l'administration s'est lancée dans une véritable guérilla financière et réglementaire contre l'université qu'elle accuse d'avoir laissé prospérer l'antisémitisme sur son campus et de favoriser des programmes de diversité, équité et inclusion dans son recrutement. Pour punir l'établissement de ne pas se plier à ses exigences, l'administration a déjà mis fin à près de 3 milliards de dollars de financements fédéraux. Le porte-parole de Harvard parle d'une décision illégale. Les étudiants étrangers sont plus de 7 000 chaque année à Harvard, soit plus du quart des effectifs, et ils payent cher, souvent plein tarif, leur droit d'inscription, qui s'élève à près de 60 000 dollars par an. C'est donc une autre source de financement importante qui va se tarir immédiatement. Les étudiants déjà recrutés dans 140 pays par l'université n'ont désormais d'autre choix que de demander de changer d'établissement ou de perdre leur statut légal et leur visa d'études aux États-Unis. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
RFI, 5h07 à Abidjan, où Tidiane Thiam a pu dormir sur ses deux oreilles. Il conserve la direction du PDCI.
Une sentence prononcée hier par la justice dans l'affaire qui opposait la direction du parti à Valérie Yapo. Cette dernière remettait en cause l'élection de l'opposant à la tête de la formation, jugeant que Tidiane Thiam ne détenait plus la nationalité ivoirienne à l'époque. Condition sine qua non pour diriger un parti ivoirien. Sauf qu'entre-temps, l'opposant a renoncé à sa nationalité française, puis à son poste, et a été réélu Abdoulaziz Diallo.
Valérie Yapo réclamait la suspension des organes du PDCI et la nomination d'un administrateur provisoire. Mais pour le tribunal, cette demande est devenue sans objet car Tidiane Thiam a entre-temps démissionné de la présidence du parti et un nouveau congrès électif s'est tenu le 14 mai dernier. La justice a également rejeté la demande d'un franc symbolique de dédommagement formulée par la plaignante. En revanche, elle a annulé la sanction disciplinaire prononcée contre Valérie Yapo en octobre dernier. Une suspension que la direction du parti avait d'ailleurs levé. Maître Alain Bokola, avocat de la plaignante, ressort satisfait.
Aujourd'hui, c'est une victoire. L'honneur de ma cliente a été sauvé. Pendant longtemps, on la traînait de la boue. Elle supportait difficilement cette sanction. Aujourd'hui, elle est réintégrée par voie judiciaire.
Si Tidiane Thiam conserve la présidence du PDCI, il reste pour l'instant inéligible à la présidentielle d'octobre prochain. Se basant sur l'article 48 du Code de la nationalité, la justice ivoirienne a ordonné sa radiation des listes électorales. Une lecture de la loi contestée par son avocat, Maître Rodrigue Dadjé.
Interpréter l'article 48 pour dire, dès que nous apprenons que vous avez une autre nationalité, vous avez perdu votre nationalité antérieure, et je trouve que c'est extrêmement grave. Nous disons que le tribunal s'est trompé en estimant qu'on perd automatiquement la nationalité sans procédure de justice.
C'est en 1987 que Tidiane Thiam a obtenu la nationalité française. Il a renoncé à celle-ci en mars dernier, redevenant automatiquement ivoirien, selon le ministère de la Justice. Abdoulaziz Diallo, Abidjan. RFI.
Le Royaume-Uni et Maurice prêts à tourner la page d'un conflit vieux de 56 ans. Les deux pays ont signé hier un accord en vertu duquel Londres reconnaît la souveraineté mauricienne sur les îles Chagos. Ces dernières étaient dans le giron britannique depuis plus d'un demi-siècle, depuis en fait l'installation d'une base militaire américaine. Cette dernière restera sur place, mais Washington devra maintenant payer un loyer selon les termes d'un bail accordé pour 99 ans.
Des manifestations hier sur les îles Canaries.
Oui, des associations et des migrants se sont rassemblés à Las Palmas contre ce qui est pour eux un assassinat, celui d'Abou Liba, gambien de 19 ans, tué de 5 balles samedi dernier, alors qu'il menaçait des policiers. C'est ce que disent les autorités. Nicolas Kirilovitz.
Assassino ! Assassino ! Assassino !
Pour eux, cela ne fait aucun doute. Abdullah Bai a été assassiné par la police nationale espagnole. Amis, connaissances ou migrants comme lui, ils ont scandé deux heures durant leur colère réunis sur une place de Las Palmas. Après une prière et quelques slogans, les langues se sont progressivement déliées pour dénoncer l'action des policiers.
Ce qu'ils ont fait, c'est pas normal. C'est pas du tout normal.
À l'image de ces deux amis du jeune homme mort samedi dernier.
Parce qu'il est noir, c'est pour ça qu'ils l'ont tué. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ces cinq policiers, ils ont suivi une formation pendant combien de temps? S'ils ne sont même pas capables de maîtriser un gars qui, soi-disant, a un couteau, qu'est-ce que ça veut dire?
Abdoulaye Baye était arrivé il y a 6 ans aux îles Canaries, passionné de sport et devenu éducateur. Il envisageait le jour de son décès de voyager pour retrouver sa famille. Isabelle Alfaro, la présidente de la Fédération nationale des associations d'immigrés et de réfugiés en Espagne, réclame une enquête approfondie et transparente.
Pour nous, c'est un assassinat et nous allons exiger que ceux qui ont causé une souffrance aussi terrible paient pour cela. S'ils doivent aller en prison, ils iront.
À la carcel, los asesinos deben ir.
Mis en cause, les policiers rejettent eux l'idée d'une erreur. Les différents syndicats de la profession invoquent à l'unisson la légitime défense. Une question désormais entre les mains de la justice espagnole. Nicolas Krilovitz, Las Palmas de Gran Canaria, RFI.
Et on termine en musique avec le nouvel album de Neba Solo, l'un des plus grands percussionnistes maliens. Ça s'appelle Touma Douma. Elisa Géraldini, les titres font la part belle au balafon.
C'est le père musicien de Neba Solo qui l'initie au balafon et c'est un immense coup de cœur pour l'enfant qu'il est alors. Ce xylophone où le son résonne dans des calebasses répandues chez les communautés sénoufo dont il fait partie, Neba Solo ne l'a plus lâché. En 1996, son groupe de percussion avec balafon, tambour bara, titiara et carignan est nommé meilleure formation malienne de l'année. Neba Solo prend aujourd'hui une nouvelle direction artistique avec cet album plus électro. Boîte à rythme, percussions traditionnelles et sonorités électroniques s'entremêlent comme si une soirée techno et une jam de percussions se déroulaient au même endroit en harmonie. Le balafoniste crée la rencontre entre musique malienne et machine, apportant toujours plus de richesse au patrimoine musical de son pays.
Neba Solo pour refermer ce journal et ce sera le choix musical de RFI un peu avant 8h, temps universel.
Tout à fait, merci Léa Boutin-Rivière, à tout à l'heure. Vendredi 23 mai 2025, bienvenue à vous. RFI matin, 3 heures d'information et l'invasion israélienne de la bande de Gaza. À nouveau à la une ce matin, l'offensive renforcée se poursuit. Sur l'enclave palestinienne, elle a encore tué au moins 52 personnes hier. Les habitants de 14 secteurs du nord du territoire sont appelés à évacuer. Le chef de l'OMS appelle Israël à la pitié. Malgré la reprise au compte-gouttes, l'aide humanitaire reste quasi absente dans l'enclave. Témoignage à suivre d'une Gazaoui qui ne trouve presque plus à manger dans le journal de 6h, temps universel. L'actualité ce matin, c'est aussi la République démocratique du Congo et la levée de l'immunité parlementaire de l'ancien président Joseph Kabila, soupçonné d'être complice du groupe armé AFC M23. Un vote écrasant des sénateurs qui ouvre la voie à des poursuites judiciaires. On en parle à 5h30, temps universel, avec Alexandra Branjon. RFI Matin aujourd'hui, c'est aussi ce rapport sur la menace djihadiste dans les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest. On en parle dans un peu plus d'une demi-heure avec notre grand invité Afrique, Lassina Diarra, directeur de l'Institut de Recherche Stratégique en Côte d'Ivoire. Bienvenue à vous. Il est 5h15 en temps universel. Et pour commencer ce matin, à la une en Asie nous emmène à Pékin, où le chef de la diplomatie pakistanaise vient de terminer une visite de 3 jours. Et ce n'est pas un hasard si Mohamed Ishaq Dar a choisi la Chine pour son premier voyage à l'étranger depuis la confrontation militaire qui a opposé son pays à l'Inde entre le 6 et le 10 mai. Bonjour Heike Schmidt.
Bonjour Julien.
Pour le Pakistan, c'était l'occasion de montrer sa gratitude vis-à-vis de Pékin, le grand fournisseur d'armes du pays. Et la Chine le lui rend bien d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Et c'est un partenariat gagnant-gagnant comme la Chine les aime. Pas étonnant que le chef de la diplomatie pakistanaise ait affiché un si grand sourire à Pékin, car son homologue Wang Yi l'a rassuré. Le Pakistan pourra compter sur l'amitié à toute épreuve de la Chine pour défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale. Comprenez, au prochain affrontement avec l'Inde dans le Cachemire, eh bien, Pékin se tiendra donc à nouveau aux côtés de son allié qui en dépend. 63% des armes pakistanaises sont fournies aujourd'hui par la Chine et Islamabad affirme que ce sont des avions de chasse chinois, les J-10C, qui ont abattu plusieurs avions indiens, dont 3 rafales de fabrication française, ce qui reste à confirmer.
Si l'armée pakistanaise a pu résister à l'Inde, c'est donc grâce aux avions, aux drones, aux missiles chinois. Un premier test grandeur nature pour ce matériel, Heike.
Exactement, Julien. C'est la première fois depuis 40 ans que la Chine a pu évaluer ses armes en combat réel. Depuis ce succès, les actions en bourse du fabricant du G10 sont montées en flèche. L'avion que la presse chinoise surnomme le chasseur de la fierté nationale a déclenché une vague d'enthousiasme sur les réseaux sociaux chinois. C'est la performance la plus convaincante de l'armement chinois sur la scène internationale. C'est réjoui le très nationaliste Hu Jintian, ex-éditorialiste du Global Times et très proche du Parti communiste. Il pense que maintenant les États-Unis vont réfléchir à 2 fois avant de défendre Taïwan en cas de guerre avec la Chine.
Et ça provoque d'ailleurs l'inquiétude à Taïwan.
Oui, bien sûr, dans les rangs militaires, on se pose cette question. Est-ce que l'aviation taïwanaise pourra résister au rouleau compresseur chinois? Nos avions n'auront que peu de chances de survie, craint un général à la retraite, cité par le New York Times. Une chose est sûre, l'image de la Chine comme pays producteur d'armes sophistiquées en sera vraiment renforcée, Julien.
Et avec eux, d'ailleurs, la Chine ne mise pas seulement sur ses armes dans le conflit indo-pakistanais, elle fait jouer sa diplomatie de l'eau en faveur d'Islamabad, qui compte bien sur Pékin pour son approvisionnement.
Absolument, car face à l'Inde, l'eau est le point très faible d'Islamabad. On l'a vu lors du conflit armé éphémère ce mois-ci, le premier ministre Narendra Modi avait menacé son voisin de couper l'eau du fleuve Indus qui traverse l'Inde avant d'irriguer le Pakistan. Or, l'agriculture pakistanaise en dépend à près de 80%. Là encore, c'est donc la Chine qui offre un début de solution au Pakistan. Pékin a promis d'accélérer la construction du grand barrage Mohmand dans le nord-ouest du pays, un projet vital pour le Pakistan qui doit lui garantir plus d'autonomie et rendre bien sûr toute menace indienne sur son alimentation en eau caduque.
Heike Schmidt, à la une en Asie, merci beaucoup. Et avant la revue de presse de Catherine Potet, tout à l'heure, on jette un œil au quotidien français de ce vendredi matin avec un aperçu inquiétant d'un futur qui se rapproche à la une de Ouest-France. Le quotidien régional se demande quels seront les impacts au quotidien d'une augmentation des températures de 4 degrés en Bretagne d'ici 2100. Les records de température pourraient dépasser 46 voire 51 degrés. Des vagues de chaleur similaires à 2003 surviendront en moyenne tous les 3 ans. Les années très chaudes comme 2022 deviendront des années anormalement fraîches. La montée des eaux entraînerait un impact plus important des tempêtes, ajoute aussi Ouest-France. Avec une élévation marine de 60 cm, les submersions seraient 10 à 100 fois plus nombreuses. Le journal relève aussi que certaines conséquences n'attendront pas la fin du siècle. Une forte augmentation de la fréquence des feux de forêt d'une superficie de plus de 20 hectares est à prévoir d'ici 2050. Un autre indicateur qui se dégrade à la une de la Croix ce matin, qui consacre un grand dossier à la corruption en entreprise. La confiance des salariés dans leur entreprise en matière éthique est en baisse, relève le journal sur la base du baromètre 2025 du Cercle d'éthique des affaires. 73% des répondants estiment que leur employeur se comporte de manière éthique. C'est 12 points de moins qu'en 2021. Une corruption qui fausse la concurrence et abîme l'état de droit, affirme dans un entretien à la Croix Isabelle Gégouzeau, directrice de l'Agence française anticorruption. Et puis les amateurs de cinéma et les fans de Scar Scarlett Johansson en auront pour leur argent ce matin dans les kiosques français. La star américaine est à la une du Figaro et de Libération en ce dernier jour de compétition du Festival de Cannes, 7h20 à Paris. Et en France, elle était attendue depuis un an. La liste des métiers en tension, publiée hier au Journal officiel, elle détermine environ 80 professions pour lesquelles les employeurs ont du mal à recruter du personnel. Et elle ouvre la voie, cette liste, à une régularisation des travailleurs étrangers qui exerçaient déjà ces activités de manière illégale. Mais ce document est régionalisé. Les métiers concernés ne sont donc pas les mêmes selon les territoires. Et dans les faits, le casse-tête reste entier pour la constitution des dossiers de demande de titre de séjour. Rencontre ce matin avec une jeune femme qui remplit les conditions pour bénéficier de cette procédure. Reportage Amélie Beaucourt.
Ça, c'est le nouveau questionnaire pour les métiers en tension. Là, il y a davantage de renseignements qui concernent le patron.
Dans la permanence du syndicat CFDT de Trappes, en région parisienne, Françoise accompagne cet après-midi une jeune femme ivoirienne, on l'appellera Aya, arrivée en France en 2017.
Depuis 2023, mon référent, il a envoyé les documents à la préfecture. Et la préfecture a répondu que tout était bon, qu'ils étaient en train de traiter le dossier de 2022, que donc ils n'ont qu'à patienter.
Aujourd'hui, en 2025, toujours pas de réponse, mais puisqu'elle exerce un métier en tension depuis au moins un an, la nouvelle procédure peut lui permettre d'être régularisée. Aya est aide-ménagère à domicile depuis 5 mois et dans un hôtel les mois précédents.
Bon, femme de chambre, je suis pas sûre.
Je comprends pas.
Eh ben, les métiers en tension, c'est pas tout, tous les métiers sont pas des métiers en tension. Vous voyez, la liste des métiers qu'on dit en tension vient juste de sortir. Puis il y a 17 pages. Et ça rentre dans les métiers en tension, le service de chambre. On pourrait regarder dans les codes puisqu'il y a domestique, ménage domestique. Et je crois que peut-être on va trouver. Oui, mais
je cherchais le papier.
Sur le bureau, des photocopies dans tous les sens. Jacques est venu aider Françoise à s'y retrouver dans cette procédure aux subtilités complexes et pas toujours logique à ses yeux.
Les métiers en tension, ils sont un petit peu hors sol par rapport à la problématique des personnes sans papier.
Parce que si vous regardez dans cette liste-là, hein, des ingénieurs et cadres d'études, recherche et développement en industrie, c'est peut-être un métier en tension, mais pas par rapport à la problématique des travailleurs sans papier. Les infirmiers, il faut avoir un diplôme. Bon, alors même s'ils avaient un diplôme dans leur pays d'origine, ce diplôme n'est pas valide en France. Donc le métier est peut-être en tension, mais ils rempliront jamais ce métier-là. C'est de la poudre aux yeux.
Une fois le dossier complet, la préfecture convoquera Aya sous 90 jours. Elle devra cette fois prouver qu'elle vit en France depuis au moins 3 ans. Mais même si elle répond à chacun des critères, la décision reste à la discrétion du préfet.
Notre reportage France signé Amélie Beaucourt et que vous retrouvez sur RFI.fr et notre application Pure Radio. Un œil sur votre programme à l'écoute de RFI aujourd'hui, ce soir à 19h40, temps universel. Vous nous posez, comme chaque vendredi, vos questions sur notre travail et c'est Juliette Rangeval qui y répond. Bonjour Juliette.
Bonjour Julien.
Au vu des derniers développements de l'actualité, pourquoi RFI dit ça revient cette semaine sur la manière dont nous suivons l'actualité à Gaza?
Face au risque de famine dans le territoire palestinien soumis au siège de l'armée israélienne, face au bombardement israélien qui continue, la pression internationale s'est accentuée sur l'État hébreu. Alors comment racontons-nous les événements en cours face aux accusations de nettoyage ethnique, de génocide? Quelle est notre boussole pour informer au mieux nos auditeurs de cet événement majeur aujourd'hui dans le monde? Guilhem Delteil est spécialiste du Proche-Orient à RFI.
Ce droit international, ça a toujours été un petit peu quand même la boussole qu'on a essayé de garder à RFI. Et ça, je pense qu'on continue dans ce chemin-là. Est-ce qu'on utilise le mot de génocide aujourd'hui pour parler de ce qui se passe à Gaza? Il y a une procédure judiciaire qui a été lancée par l'Afrique du Sud, soutenue ensuite par l'Espagne et l'Irlande, devant la Cour internationale de justice. Il reviendra aux juristes de trancher. Il revient aux États qui sont signataires de la Convention pour la prévention du génocide de protéger les populations civiles. Nous, il nous appartient de raconter les faits.
Nous revenons aussi sur la visite du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko au Burkina Faso, qui fait beaucoup réagir sur notre couverture de l'actualité française et aussi sur un sujet d'agacement pour les auditeurs qui utilisent l'appli Pure Radio pour nous écouter.
Et qu'est-ce qui les agace, Juliette ?
Les départs intempestifs de pub quand ils lancent l'appli pour écouter un journal en direct. C'est Grégoire Germain, le directeur commercial de RFI, qui leur répond.
Je comprends parfaitement l'agacement qui est exprimé par cet auditeur. C'est un retour que nous recevons parfois et que nous prenons très au sérieux. Parce que nous savons à quel point l'expérience d'écoute est importante. C'est un choix stratégique qui a été fait de se positionner uniquement sur les directs pour l'instant. Notre objectif est de trouver un équilibre entre nos obligations de mission de service public et nos engagements commerciaux. Mais c'est aussi de permettre un financement complémentaire sans nuire à l'écoute ni à la confiance des auditeurs.
Le directeur commercial de RFI a retrouvé dans Pourquoi RFI dit ça et une adresse pour écrire à l'émission pourquoi@rfi.fr. Juliette Rangeval, on vous dit à tout à l'heure, 19h40, temps universel. Et bientôt 5h30, TU sur RFI avant le prochain journal, un peu de musique avec l'une des voix les plus belles et les plus américaines du paysage musical français, Ben L'Oncle Soul, qui revient avec un nouveau titre avec sa cousine, la chanteuse Adi Oasis. Ça s'appelle I'm Good et c'est dans la sélection du mois de RFI. You cannot live up to my shot. Yeah, 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 yeah. Tell me a theme and I will be a gangster. I don't know what to say, but I'll be yelling, yeah. Oh, name anything you like and I'll be dissing it. Let me get up on looking at the misery. Single de Ben L'Oncle Soul avec sa cousine, la chanteuse Adi Oasis, et la sélection du mois de RFI que vous retrouvez bien sûr sur musique.rfi.fr. Bienvenue sur la radio du monde. Si vous nous rejoignez, restez avec nous. Prochain journal dans une minute. À tout de suite.
Priorité Santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème d'aujourd'hui.
Émission Questions de femmes, nous parlons de la prévention et de la prise en charge de l'anémie, véritable problème de santé publique pour les femmes en Afrique subsaharienne.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Le festival aux quatre coins du mot célèbre le mot sous toutes ses formes du 28 mai au 1er juin sur le site historique de la Charité-sur-Loire. Au programme de cette 20e édition, spectacles, rencontres, jeux, expositions, visites insolites, installations sonores et ateliers sur le thème « Enquête ». Les mots résonnent en bord de Loire. Plus d'informations sur citedumot.com en partenariat avec RFI.